L'Évangile et le trône de David. Notre brochure gratuite, disponible en anglais seulement, intitulée Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie, détaille une compréhension étonnante provenant de la Bible et de l'histoire, selon laquelle certaines nations occidentales modernes seraient les héritières des promesses physiques faites à Abraham et à ses descendants. Cette compréhension a-t-elle un rapport avec l'Évangile de Jésus-Christ et le royaume de Dieu? Il y a plus de liens que vous ne le pensez. Par Darris McNeely. Pourquoi des millions de personnes dans le monde assistèrent-elles aux funérailles de la reine Élisabeth II, femme de 96 ans qui régna pendant 70 ans? Pourquoi, dans un monde moderne, les gens sont-ils fascinés par la personne qui porte la couronne de la Grande-Bretagne? Les rois et les reines ne sont-ils pas démodés, et ont-ils encore une place dans notre monde technologique moderne? Pourrait-il y avoir quelque chose de plus que la simple célébrité et le glamour lié à cette ancienne institution connue sous le nom de la monarchie britannique? La monarchie britannique est l'une des plus anciennes du monde. Elle remonte aux premiers rois anglais et normands, ainsi qu'aux souverains d'Écosse. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que le souverain ne détient pas le pouvoir absolu. Cependant, la monarchie britannique a une histoire et une fascination qui la rendent unique parmi toutes les monarchies actuelles. L'attention, la curiosité et l'impact émotionnel du décès de la reine semblent indiquer que cette monarchie détient quelque chose de plus spécial. Au-delà de notre époque, lorsque nous comprenons toute l'histoire, nous constatons que la famille royale ne se résume pas à la richesse, à la gloire, aux privilèges et à la célébrité. Il semblerait qu'il existe un lien avec l'histoire biblique, Dieu, ainsi qu'une compréhension vitale du monde d'aujourd'hui et de la prophétie future. Dans une chronique écrite quelques jours seulement après le décès de la reine Élisabeth II, la journaliste britannique Melanie Phillips réfléchissait au rôle essentiel de la monarchie britannique pour l'unité du Royaume-Uni. Alors que les foules affluaient dans les rues, montrant leur dévotion à la défunte reine, Melanie Phillips écrivait. Bien entendu, le dévouement a une signification religieuse. Dans une Grande-Bretagne largement laïque et athée, il existe une importante dimension sacrée dans la relation entre le peuple et la couronne. Le monarque de la Grande-Bretagne est consacré à un roi supérieur. Le serment qu'il prête n'est pas au peuple mais à Dieu. C'est la raison pour laquelle son devoir de servir le peuple est indissoluble. C'est la raison pour laquelle le monarque constitue une force unificatrice et transforme le peuple en une nation unie. La famille royale contribue à faire du pays une famille nationale, en quelque sorte. The Momentum Task for King Charles III, 16 septembre 2022. Philippe s'établit ensuite un lien remarquable avec un enseignement biblique. Peu de gens sont conscients du fait que la monarchie britannique est inspirée de l'ancienne nation d'Israël. C'est la raison pour laquelle le monarque est oint. C'est la raison pour laquelle, à chaque couronnement survenu en Angleterre depuis 1727 après Jésus-Christ, on chante « Sadoc le sacrificateur » de Handel dont les paroles sont tirées du premier livre des rois. D'anciens monarques britanniques auraient apparemment retracé leur lignée jusqu'au roi David. Nous devrions sérieusement considérer ce que dit cet auteur de Grande-Bretagne. Elle relie les événements actuels, le décès de la reine Élisabeth et le couronnement du roi Charles, aux éléments de la longue histoire de la monarchie britannique, et en fin de compte, à la Bible et à l'histoire d'Israël et de son chef le plus célèbre, le roi David. Ce lien est essentiel à la compréhension de la transition du leadership au Royaume-Uni, ainsi que dans les autres nations du Commonwealth. Il constitue le fondement d'une perspective biblique sur le monde, ce que nous appelons une vision biblique du monde. Avec la Bible comme guide, nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui, et ce qui attend les nations, en particulier les nations anglophones de Grande-Bretagne, d'Amérique, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'impact mondial qu'a eu la vie et la mort de la reine Élisabeth, ainsi que le couronnement d'un nouveau roi qui en découle, est un témoignage vivant de la vérité selon laquelle les promesses et les alliances de Dieu avec les patriarches bibliques sont pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. Ces promesses continuent de façonner les événements mondiaux et auront un impact encore plus grand à l'avenir. Le fait que les nations anglophones du monde, ainsi que certains pays de l'Europe occidentale aient représenté la plus grande partie de la richesse mondiale, et qu'elles continuent à avoir un impact significatif sur le monde moderne n'est pas une coïncidence de l'histoire. Il est lié au dessein que Dieu poursuit à travers les âges. Cette compréhension fait finalement partie de l'Évangile ou de la bonne nouvelle concernant le royaume que Jésus-Christ apportera sur la terre, le royaume de Dieu. Dans l'Évangile de Luc, nous voyons l'ange annoncer à Marie qu'elle allait enfanter un fils. Il s'appellera Jésus et sera le Fils de Dieu. Son destin sera de recevoir le prestigieux trône de David, le plus grand roi d'Israël. Cette annonce fait partie de l'évangile ou de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de son roi Jésus-Christ et du moyen d'entrer dans ce royaume. Elle résume tous les espoirs d'Israël. Elle est la réponse au message de tous les précédents prophètes. Lorsque ceux-ci sont bien compris, ils indiquent une intervention future dans les affaires de ce monde lors de la seconde venue du Christ. Remarquez ce qui est dit. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Luc 1, 26 à 33. Dans cette annonce, nous avons le cœur du message de l'Évangile. Le Messie, né d'une vierge, serait le Fils du Très-Haut. Par l'accomplissement de nombreuses prophéties, il recevra l'autorité pour toujours sur son royaume. Voici l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ en tant que roi des rois. Oui, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, est le roi d'Israël prophétisé qui régnera sur toutes les nations. Dans le prolongement de ces prophéties, Dieu dit que le trône de David perdurerait à travers toutes les générations. Ce trône n'a jamais disparu. Il continue à régner sur les peuples descendants des anciens Israélites. Cela est un témoignage de ce qui est encore à venir. Le royaume de Dieu est un royaume littéral que le Christ établira sur toutes les nations à son retour. L'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel était également une prophétie. Nous devrions reconnaître que le trône du royaume, sur lequel Jésus-Christ régnera, sera la continuation du trône du roi David qui régnait sur la nation d'Israël, comme le décrit votre Bible. Quel était ce trône sur lequel David s'est assis? David, en tant qu'homme, fut le deuxième roi à régner sur tout Israël après Saül. Ce que les gens oublient souvent, c'est que Dieu était le premier et véritable « roi » des tribus d'Israël. Les Israélites voulaient un roi comme les autres nations. Ils allèrent voir le prophète Samuel pour lui demander de leur donner un roi. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux. » 1 Samuel 8, 6 à 8, et 12, 12. Dieu régna sur Israël après les avoir délivrés de l'esclavage égyptien. Bien que Dieu leur ait donné un roi physique comme il le demandait. Il s'agissait toujours de son trône, bien qu'il fût délégué en partie à un dirigeant humain temporel. Initialement, Dieu choisit Saül, puis en raison de sa désobéissance, il le destitua et David fut choisi. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, Dieu lui promit une dynastie durable. Remarquez ce que Dieu dit, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison, une dynastie régnante. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, 11 à 16. Dans une autre référence, cette alliance avec la maison de David est appelée une « alliance inviolable ». 2 Chroniques 13, 5. Dans la version française Darby de la Bible, elle est appelée « une alliance de sel ». Le sel étant un symbole de permanence. Cette promesse est répétée dans le psaume 89, versets 3 à 4, 25 à 27, et encore par le prophète Jérémie. Jérémie 33, 17 à 26. Certains diront que Jésus a accompli tout cela. Mais ce n'est pas vrai. Lors de sa première venue, Jésus n'a pas pris possession de ce trône. mais il s'est comparé à un homme de haute naissance qui est allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Luc 19, 12. Les Juifs et ses disciples pensaient que le royaume serait restauré de leur vivant. Mais ce ne fut pas le cas. Ceci aura lieu dans une époque encore future. Lorsqu'il reviendra, le Christ s'assiera sur le trône de son père ou ancêtre David, dans des circonstances complètement différentes. Ce sera son trône légitime, réservé selon une promesse. En tant que membre de la famille de Dieu qui conduisit les Israélites à travers la mer, le Christ était le rocher spirituel qui les accompagnait et sur lequel la nation fut établie. 1 Corinthiens 10, 4. Qu'est-il donc arrivé à la dynastie davidique? Nous voyons que l'alliance était éternelle. Cette histoire est racontée par les prophéties données par Jérémie et Ézéchiel. Elles font partie d'un ensemble d'événements bibliques, de prophéties et de promesses qui constituent des liens solides avec la fidélité durable de Dieu envers Abraham. Ses descendants, toutes les nations de la terre et tous les peuples. Considéré dans une perspective biblique, il donne un aperçu de l'évangile de Dieu, qui accomplit son dessein par le Christ. Le Dieu qui réunit toutes choses en Christ a guidé l'histoire à travers tous ses rebondissements, pour garder intacts les éléments clés de ses promesses et de sa parole. Sur la base de ces passages bibliques, nous pouvons conclure que quelqu'un, quelque part, pouvant retracer une lignée jusqu'au roi David, sera assis, ou aura le droit de s'asseoir sur le trône davidique, à chaque génération, jusqu'à ce que le Christ revienne le réclamer pour lui-même. Il est évident, d'après l'évangile de Luc, que le Christ en est l'ultime prétendant. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Luc 1, 32. Mais les prophéties ne peuvent s'accomplir avec le Christ comme seul prétendant. Le trône de David doit exister quelque part aujourd'hui. Le Christ reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et il régnera sur le trône de son père David à Jérusalem. Dieu promet dans la Bible qu'il accomplira toutes ses promesses. Le fait que certains monarques britanniques, dont la reine Victoria, qui régna pendant plus de 63 ans, de 1837 à 1901, croyaient que la monarchie britannique descendait du roi David est une histoire fascinante. Bien que l'on puisse le nier, les généalogies existent bel et bien, et de nombreuses personnes de la famille royale ou associées à celle-ci y croyaient. Il ne s'agit pas d'une légende ou d'une collection d'interprétations tortueuses et déformées des Écritures. Elle fait partie du tissu qui relie la Bible avec une histoire contemporaine et pertinente. Lorsqu'elle est comprise, elle ajoute une dimension de connaissance qui explique le monde moderne. La promesse de Dieu d'apporter le salut spirituel à tous les peuples et nations par son Fils Jésus-Christ de Nazareth est inhérente à l'Évangile. Toutes les promesses de Dieu concernant ses serviteurs les prophètes et son Fils sont certaines et fidèles. Il les accomplit dans les moindres détails, même si nos histoires et nos archives humaines ne relatent pas chaque événement avec l'exactitude des méthodes et des critères modernes. Nous devons considérer comme véritables les promesses de Dieu à David. Elles sont soit vraies, soit fausses. En quoi cela est-il important? Notez que lorsque Jésus était sur le point de monter au ciel, ses disciples lui posèrent une question d'importance majeure, « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Actes 1, 6. Ainsi, un message vital, central, qu'ils intégrèrent parfaitement tout au long de leur séjour avec le Christ, était celui de la restauration du royaume d'Israël et de l'élévation de son trône à travers lui. Sa réponse ne fut pas de nier cet objectif clé, mais de leur dire qu'il ne leur appartenait pas de connaître le moment où cela se produirait et qu'ils devaient continuer à être les témoins du Christ. Versets 7 à 8. Un jour, le Christ reviendra sur la terre et s'assiera sur le trône de son père David. Ce trône existe toujours. Le trône de Grande-Bretagne témoigne du dessein de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Le Christ est à la droite du Père dans les cieux, attendant le moment de revenir et d'établir un royaume de justice. Un royaume qui ne sera jamais remis à personne d'autre. Un royaume bien différent de tous les royaumes actuels. Cela nous donne confiance dans la fidélité de Dieu à accomplir toutes ses promesses envers tous les peuples. La fidélité durable de Dieu envers Abraham atteindra sa plénitude lorsque Jésus-Christ s'assiera sur le trône de David dans le royaume à venir. Les nations d'Israël réconciliées à Dieu seront alors restaurées en tant que peuple, et le Christ l'utilisera pour enseigner la voie du salut aux nations. Les promesses de Dieu aux descendants d'Abraham, qui existent encore aujourd'hui, expliquent pourquoi une partie disproportionnée de la richesse mondiale se trouve aujourd'hui concentrée chez certaines nations plus que d'autres. Dieu a dit à Abraham que ses descendants seraient une multitude de nations, une promesse précisée à Jacob en tant qu'une nation et une multitude de nations. Genèse 35, 11. Jacob transmit ses promesses à son fils Joseph, en lui disant qu'il était le rejeton d'un arbre fertile près d'une source dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Genèse 49, 22. Le fait que Dieu ait fait cela, qu'il ait tenu sa parole, est un marqueur, une garantie, qu'il fera de même pour tous les peuples et toutes les nations. Lorsque le voile de la tromperie sera levé sur les nations, elles apprendront la voix de Dieu. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ésaïe 2, 2 à 3. L'évangile du salut sera enseigné depuis Jérusalem. Il y aura un temps de restauration des bénédictions pour Israël. La grande question que l'apôtre Paul posa au sujet de son peuple trouvera une réponse. Paul savait que les 10 tribus formant le royaume d'Israël au nord avaient été emmenées en captivité des siècles plus tôt et étaient maintenant dispersées parmi les nations, tout comme un grand nombre des 2 tribus qui formaient le royaume de Juda au sud. C'est pourquoi l'apôtre Jacques adressa son épître aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Jacques 1, 1. Paul, ancien pharisien, avait apporté l'évangile aux Juifs, et dans l'ensemble, ils avaient rejeté le message. Dans une complainte consignée dans sa lettre aux Romains, Paul souhaitait être maudit si cela pouvait permettre à ses compatriotes israélites d'être sauvés. Romains 9, 3. Il écrit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Romains 10, 1 à 3. Le salut n'est pas encore parvenu à Israël en général, mais il le sera au cours de la période du règne du Christ sur la terre. Dieu rétablira les 12 tribus d'Israël dans la position à laquelle il les a toujours destinées. Une nation qui est une lumière pour le monde, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Deutéronome 4. 5 à 6. Dans le monde à venir, Dieu utilisera Israël pour enseigner sa voie à toutes les nations de la terre. Remarquez comment Paul met cela en évidence, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? » Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Romains 11, 11 à 15. Il avait compris que son peuple, Israël, avait rejeté Dieu pour un temps et qu'il y aurait un but à cela. Pendant cette période, Jésus-Christ est venu et est mort, rejeté par son propre peuple, afin que la porte du salut soit ouverte aux gentils afin qu'ils puissent être enrichis. Tout comme l'œuvre du salut spirituel n'est pas terminée avec Israël, elle ne l'est pas non plus avec toutes les nations du monde. Lorsque l'acceptation d'Israël dans le temps de la restauration se produira, alors les nations du monde viendront à connaître le plein évangile de Dieu, et un temps de salut pour le monde entier commencera. Paul savait que Dieu n'avait pas rejeté son peuple Israël. Il savait que leur espoir de vie éternelle serait accompli. Actes 26, 6 à 7. Dieu restaurera le royaume d'Israël lorsque Jésus de Nazareth s'assiera sur le trône qu'il donna à David. La justice sera enfin enseignée depuis ce trône par le roi de la justice lui-même. Dieu a en effet une œuvre inachevée avec son peuple Israël. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas laissés sans aucun témoignage de sa foi et de son intention d'accomplir son grand dessein de salut pour tous les peuples. Une monarchie moderne assise sur un trône légendaire dont les racines remontent à l'ancien Israël et au roi David, est un témoignage que Dieu nous donne. Les moqueries, le déni et le rejet des faits ne changent rien à la vérité. La parole de Dieu est vraie. Certains soulignent les faiblesses et les défauts de la monarchie britannique, tant dans le présent que dans le passé, aussi loin que l'on veuille remonter. Les membres de la famille royale sont effectivement très humains et profondément imparfaits. Pourtant, le roi David et nombre de ses descendants qui régnaient dans l'ancienne Judée l'étaient aussi. Certains d'entre eux étaient d'une méchanceté flagrante. Malgré cela, Dieu préserva la monarchie davidique, en s'en tenant fidèlement à son dessein dans les moindres détails. Les Écritures nous le montrent. Nous avons un témoin, comme le dit Melanie Phillips dans son article cité plus haut, certains anciens monarques britanniques auraient apparemment retracé leur lignée jusqu'au roi David. Il y a une raison pour laquelle ils l'ont fait. Il y a bien plus de compréhension et de vérité biblique ici que la plupart ne le réalisent.